Vous écoutez, on lit pour vous.
La crise de panique démystifiée. Un texte de Jacqueline Simoneau paru dans le magazine Bel Âge. Une frayeur soudaine peut se manifester sans crier gare et être ressentie n'importe où, à tout moment. Et nul n'est à l'abri. Comprendre l'attaque de panique peut toutefois aider à y faire face. Selon le docteur François Borja, psychiatre spécialiste des troubles anxieux et professeur à l'Université de Montréal, les troubles anxieux toucheraient 12,1% de la population et le trouble panique environ 1,7%. Cependant, d'après la Fondation des maladies mentales, jusqu'à 40% des personnes auraient déjà vécu des crises de panique à un moment de leur vie sans forcément développer un trouble panique. Fait intéressant, les femmes sont deux fois plus susceptibles d'en être affectées que les hommes. Crise d'anxiété ou de panique? La crise de panique se définit comme une crise d'anxiété aiguë. En psychiatrie, on parle de crise de panique plutôt que de crise d'anxiété, précise le docteur Borja. Concrètement, l'anxiété est une réponse normale à la perception d'une menace, un signal d'alarme. L'anxiété est nécessaire à notre survie parce qu'elle nous aide à éviter un danger, explique Camillo Zacchia, psychologue spécialisé dans le traitement des troubles anxieux. Elle nous empêche de conduire trop vite sur une route glacée ou de nous avancer trop loin sur une falaise. Elle nous met en état d'alerte devant un danger réel, quand on se retrouve face à un ours, par exemple. Elle est une réaction naturelle à un stress, comme une séparation ou une insécurité financière. Cela dit, l'anxiété devient pathologique lorsqu'elle est chronique et injustifiée. La crise de panique, elle, est un épisode de peur intense. Elle survient soudainement, sans avertissement et sans danger apparent. La peur ressentie est brutale, intense, et elle s'accompagne de symptômes physiques et de pensées affolantes. Une personne peut subir une seule crise de panique dans sa vie, alors que d'autres en vivent à répétition. Lorsque les crises sont récurrentes, les gens peuvent développer un trouble panique avec ou sans agoraphobie, peur des lieux publics. D'où ça vient? Il est souvent difficile de déterminer avec précision la cause d'une crise de panique. Elle se produit généralement sans raison précise, parfois même en pleine nuit. Parmi les facteurs potentiels, le stress, les phobies, les traumatismes, l'environnement et le tempérament. Selon le docteur François Borja, la sensibilité à l'anxiété et la capacité d'adaptation aux situations varient beaucoup d'une personne à l'autre. Il existe aussi une composante génétique. Une personne dont un parent proche souffre d'anxiété court un risque plus élevé d'en ressentir. Enfin, les expériences vécues peuvent renforcer les peurs. À titre d'exemple, si on s'évanouit en public, on sera plus craintif par la suite. Souvent, la crise survient quand les gens appréhendent de revivre une situation angoissante, note Camillo Zacchia. Symptômes et durée. Palpitations, douleurs thoraciques, difficultés respiratoires, transpiration, tremblements, étourdissements, engourdissements, impression d'instabilité ou d'évanouissement, dépersonnalisation, peur de faire une crise cardiaque, de devenir fou, de perdre le contrôle ou de mourir. Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes pouvant accompagner une crise de panique. Mais qu'on se rassure, même s'ils sont intenses et terrifiants, ils ne durent pas et sont sans danger. Normalement, la crise de panique atteint son intensité maximale en moins de 10 minutes. Que faire si une crise de panique se déclenche? Rien, affirme Camillo Zacchia. Fuir n'est pas la solution. L'évitement ne prévient pas les crises de panique. Au contraire, il amplifie le problème. Ce sera très difficile de se retrouver ensuite dans le même lieu ou la même situation si on n'a pas appris à y faire face. Même si c'est inconfortable, mieux vaut rester sur place et affronter sa peur sans lutter, le temps que la crise finisse. Le corps se calmera de lui-même. En général, si on n'interprète pas les symptômes comme étant dangereux pour nous, la crise restera un événement isolé. Dans le cas contraire, il risque d'y avoir d'autres épisodes. De l'aide aux besoins. Les symptômes sont parfois si affolants que certaines personnes pensent être en train de faire une crise cardiaque et filent illico à l'urgence. Or, le temps de s'y rendre, la crise de panique sera probablement terminée. Mieux vaut apprendre à gérer les symptômes. Selon Camille Ozakia, après une crise, certaines personnes appréhendent d'en subir une autre. Elles ont peur d'avoir peur. Elles anticipent la prochaine crise et se créent des scénarios catastrophes. Si l'anxiété subsiste après l'épisode de panique, qu'elle est intense et récurrente, qu'elle cause une grande détresse, qu'elle survient sans raison et empêche la personne de fonctionner normalement au quotidien, il faut en parler à un professionnel de la santé, conseille le docteur François Borja. L'anxiété se traite notamment à l'aide d'une psychothérapie cognitivo-comportementale, de médicaments ou d'une combinaison des deux. C'était « La crise de panique démystifiée », un texte de Jacqueline Simoneau, paru dans le magazine Bel Âge.
Itinérance zéro. Une solution finlandaise pour le Québec? Un texte de Patrice Bergeron, de la presse canadienne, paru le 31 décembre 2023 dans l'actualité. Alors que le Québec traverse sa pire crise de l'itinérance pour en sortir, le modèle finlandais est cité en exemple avec son objectif d'itinérance zéro. Quelle est précisément cette solution que préconise notamment le maire de Québec, Bruno Marchand? Il s'agit du programme Housing First, qu'on pourrait traduire par « domicile d'abord » ou « un toit avant tout », qui n'offre pas un refuge temporaire pour une nuit, mais plutôt un toit permanent de qualité à tout itinérant. Il s'agit d'un programme un peu difficile à faire accepter, mais pas trop, a expliqué le maire de Helsinki, Juhana Vartiainen, en entrevue à la presse canadienne. C'est un modèle pertinent et assez complet. Toutefois, c'est un idéal relativement peu réaliste dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, a pour sa part estimé Annie Fontaine, une experte en travail social de l'Université Laval à Québec. Alors que les villes du Québec croisent le fer avec le gouvernement Legault pour réclamer plus d'actions et de fonds, l'État finlandais et les municipalités ont fixé leurs priorités depuis presque 40 ans. De 18 000 à 3686. En 1987, il y avait 18 000 itinérants en Finlande, lorsque le gouvernement a décidé de cibler l'itinérance zéro. Or, à la fin de 2022, on en recensait 3686, mais seulement 492 d'entre eux passaient la nuit dehors. Ainsi, la plupart des personnes sans domicile fixe habitent avec leurs amis ou leurs familles, a précisé la coordonnatrice de la diplomatie publique de l'ambassade de Finlande à Ottawa, Laura Kishumaa. L'itinérance n'est pas visible dans les villes de Finlande, a-t-elle poursuivi. En comparaison, il y avait 10 000 personnes en situation d'itinérance visible au dernier dénombrement effectué en octobre de 2022 au Québec, une hausse de 44% par rapport à 2018. Voilà ce que la Finlande, ce petit pays nordique, est arrivée à faire en visant l'itinérance zéro. C'est la bonne façon de combattre le problème des sans-abri, a confié le maire de la capitale finlandaise. Une formule simple. Le postulat du programme Housing First est simple. Avant de vouloir régler le problème de consommation d'alcool ou de drogue de la personne, ou son problème de santé mentale, ou de lui trouver un emploi, il faut avant tout lui fournir un domicile fixe. Pas seulement un abri pour une nuit. C'est vraiment l'idée fondamentale de notre politique. Si on fournit aux gens un logement, il y aura des effets secondaires très positifs, a témoigné le maire de Helsinki. Leur fournir un appartement semble résoudre un tas d'autres problèmes antérieurs, a-t-il poursuivi. On n'exige pas préalablement que la personne ait déjà traité son problème d'alcool. Leur santé s'améliorera, leur consommation diminuera, les probabilités qu'ils se trouvent un emploi sont plus élevées, etc. C'est ce que les études tendent également à démontrer. C'est l'effet positif sur les problèmes secondaires ultérieurs qui fait que nous avons produit cette analyse et abouti à notre solution, a résumé M. Vartiainen. Même le Forum économique mondial, qu'on ne peut soupçonner d'être un organisme radical de gauche, vante la solution finlandaise. Dans un bulletin, l'organisme rapporte les propos d'un bénéficiaire du programme qui tendent à prouver son bien fondé et ses prémices, c'est-à-dire qu'avant de vouloir traiter les problèmes d'une personne itinérante, il lui faut un logis permanent. L'état d'ébriété est une façon de passer le temps quand on est itinérant, témoigne le rescapé. On ne peut devenir sobre si on est sans abri, personne ne le peut. Des chercheurs soutiennent qu'autant les pays de l'Union européenne que des États comme la Norvège, la Suisse, l'Australie et le Canada seraient tout à fait capables de faire disparaître l'itinérance d'ici à 2030 parce qu'ils en ont les capacités économiques. Qui plus est, le Canada souscrit à l'agenda 2030 de développement durable de l'ONU qui vise à assurer à tous un accès à un logement abordable, sécuritaire et adéquat. Cependant, la situation s'est détériorée en raison de l'afflux important de demandeurs d'asile au pays au cours des dernières années, constatent les chercheurs qui recommandent, notamment, d'accroître le parc de logements modiques dans les grandes villes. Il y a des pistes de travail inspirantes dans le modèle finlandais, a reconnu Annie Fontaine, professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Cependant, il y aurait des éléments à transformer, parce qu'elle doute que ce programme soit transférable ici. Fondation Y. Housing First se révèle être un travail de partenariat, une collaboration entre l'État finlandais, les municipalités et Y Säätiö, c'est-à-dire la Fondation Y. En date de juin 2023, cet organisme sans but lucratif fournissait 18 688 logements modiques dans 58 localités, notamment à des itinérants, mais aussi à des personnes handicapées. Elle logeait ainsi plus de 26 500 résidents. Säätiö a reçu un financement de 600 000 euros en 2023 de STEA, une agence du gouvernement finlandais responsable de l'aide sociale. Il n'y a pas de solution miracle à toutes les situations, mais avec une base solide, on peut améliorer le bien-être des itinérants, a affirmé l'ex-président de la Fondation, Juha Kakinen, dans un entretien au Forum économique mondial. Quand les gens ont un toit, ils peuvent surmonter les défis qu'ils ont dans leur vie ou se soucier d'où ils vont pouvoir dormir le soir venu, où ils vont vivre le mois prochain, a renchéri le directeur des affaires internationales de la Fondation Y, Juha Kahila, dans une entrevue téléphonique avec la presse canadienne. Une fois qu'on attribue un domicile à la personne, des équipes la prennent en charge, en menant des entretiens pour procéder au diagnostic et apporter les soins ou le soutien requis, a expliqué le maire de Helsinki. Appartement. Dans sa documentation, la Fondation Y donne un exemple précis. La construction d'un immeuble de 100 appartements locatifs destiné à des personnes qui ont vécu l'itinérance. Le coût par appartement est d'environ 150 000 euros, 219 000 dollars, donc un total de 15 millions d'euros, 21,9 millions de dollars pour l'immeuble. Les immeubles sont situés dans des quartiers résidentiels tout à fait normaux, qui sont bien servis par le transport en commun et en général à distance de marche d'un supermarché et d'une pharmacie. La taille moyenne d'un logement est de 49,4 mètres carrés et le loyer revient à 14 euros, 20,44 $ par mètre carré. Il y a eu de la résistance en Finlande, comme le rapporte notamment le Forum économique mondial. Dans les secteurs résidentiels où on bâtissait des immeubles qui allaient accueillir des anciens itinérants, beaucoup de citoyens du voisinage étaient mécontents, peut-on lire. Bien sûr qu'il y avait de l'inquiétude, a confirmé M. Kaila. Mais les gens ont rapidement réalisé que c'était une bonne idée et un bon usage de l'argent des contribuables quand ils ont constaté la baisse du taux de criminalité. Vous écoutez « Itinérance zéro, une solution finlandaise pour le Québec », un texte de Patrice Bergeron de la Presse canadienne, paru le 31 décembre 2023 dans l'Actualité. Unité de logement accompagnée. La Fondation dispose également d'appartements communautaires spéciaux, appelés « unités de logement accompagnées » pour des personnes qui ont besoin d'appui en raison de problèmes de toxicomanie ou de leur âge avancé. Ces unités de dimension assez vaste sont aménagées avec des espaces communs et de petits appartements privés, en plus de rangements à vélo, sauna, gym, etc. La Fondation apporte un soutien et un encadrement aux personnes qui le requièrent et ajuste le loyer en fonction de la capacité de payer du locataire. Oui, donc, le loyer est subventionné, oui. La construction est subventionnée aussi, de même que le personnel de soutien. Par exemple, l'État finlandais a versé 10 millions d'euros à une dizaine de municipalités pour payer des employés à cet effet. Ça coûte assez cher. Il faut être parfaitement honnête avec les citoyens qui paient leurs impôts, a avoué le maire de Helsinki. On leur explique que cela revient moins cher pour les finances publiques que de traiter les problèmes de santé mentale des itinérants. Ils vont travailler, seront moins malades, souffriront moins de problèmes de drogue, a-t-il poursuivi. À la Fondation, on calcule que la société économise jusqu'à 9 600 euros par personne par année en services de toutes sortes, par rapport au statu quo, laisser les gens se débrouiller dans la rue. À Helsinki, on est tout de même impressionné par cette analyse selon laquelle, à la longue, ça ne coûte pas plus cher à la ville, conclut M. Vartianen. Cela dit, il est conscient que chaque société est différente. En Amérique du Nord, la culture politique met l'accent sur la responsabilité de chaque individu pour sa vie. Un modèle exportable? La professeure Annie Fontaine se questionne d'ailleurs sur la capacité du Québec d'importer la solution finlandaise. Il y a tellement d'aspects structurels, culturels, organisationnels, dans lesquels s'inscrit ce programme que c'est difficile d'en imaginer l'application simple et directe dans notre contexte politique et socio-économique ici. Elle met en garde contre une vision un peu mécanique qui idéalise le modèle finlandais. Ainsi, il est trompeur de penser qu'on prend quelqu'un, on le place, et il va pouvoir bénéficier de tous les services et tout va s'arranger. Il ne faut pas polariser le débat actuel, opposer l'itinérance zéro à toute la panoplie de programmes et services qui existent actuellement au Québec et qui ne se limitent pas à laisser dormir les gens dans la rue. Les humains ne sont pas tous formatés en fonction de l'idéal, fait-elle valoir. Leur trajectoire est moins linéaire et des personnes itinérantes ne sont pas prêtes tout de suite à vivre seules dans leur appartement, connaître cette forme d'isolement. Certains dorment sur le plancher parce qu'ils ne sont pas capables d'habiter l'espace et ils sont coupés de leur réseau de solidarité. Madame Fontaine préconise des choix multiples pour ceux et celles qui ne sont pas prêts, donc proposer diverses formes d'aide et de parcours. Trop politisé. Ce débat devient trop politisé, regrette-t-elle, en accusant les élus partisans d'un camp ou de l'autre d'instrumentaliser l'expérience itinérante. L'universitaire déplore ainsi les déclarations qui ont fusé lors du sommet sur l'itinérance de l'Union des municipalités, UMQ, l'automne dernier. Le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, avait alors accusé le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, de manquer d'ambition et d'être insensible en écartant l'objectif de l'itinérance zéro. Des personnes choisissent l'itinérance comme mode de vie, avait plaidé M. Carman, en précisant ensuite qu'il parlait ainsi d'un exemple extrême. Il avait ensuite soutenu qu'il œuvrait plutôt à briser la tendance à la hausse de l'itinérance et souhaitait travailler davantage sur la prévention. Le maire de Québec, Bruno Marchand, avait lui-même riposté. Certains nous trouvent trop ambitieux lorsqu'on parle d'itinérance zéro, avait-il écrit dans un message Facebook. J'ai envie de dire aujourd'hui qu'il n'y aura jamais trop d'ambition pour prendre soin de notre monde, insistait-il. On ne peut pas se fixer autre chose que le zéro. Dans ce cas, ce serait se dire qu'on accepte qu'il reste encore des gens dans la rue. Je trouve ça vertueux, mais parfois, on focalise tellement sur le zéro qu'on est dans une logique de récolte de données qui déshumanise le processus, qui crée un cynisme, juge pourtant Mme Fontaine. Utopique. M. Marchand lui-même, début décembre, a fini par reconnaître qu'il était utopique d'éliminer le fléau d'ici à 2025 à Québec, alors que c'était pourtant son engagement en 2021. Sa ville se distinguera par des solutions novatrices d'ici à 2030, a-t-il plutôt soutenu en faisant remarquer que la Finlande, après tout, avait réalisé son plan sur 30 ans. Mais c'est l'État finlandais qui avait donné le cap, pas les villes isolément. Or, ici, le gouvernement du Québec, qui est aussi le principal bailleur de fonds et maître d'œuvre dans la lutte à l'itinérance, n'a pas endossé le projet du maire Marchand. Il faut faire les choses différemment, et ça prend beaucoup de courage de la part des politiciens, des décideurs, a témoigné M. Kaila. Il estime qu'autant le modèle de l'itinérance zéro que la mise sur pied d'une fondation dédiée sont applicables dans d'autres pays. La Fondation achète ou construit des immeubles, dispose d'équipes de développement, mais aussi d'une unité de recherche sur l'itinérance, et elle élargit maintenant son expertise en se penchant également sur le décrochage. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas au Canada ou dans la ville de Québec. Il n'est pas nécessaire de copier tel quel le modèle, mais l'idée, le principe derrière la Fondation Y est totalement possible à dupliquer. Des expériences similaires à la Fondation Y sont en émergence en Belgique ainsi qu'aux Pays-Bas, où les premiers appartements ont été achetés récemment. Sans subvention directe. La Fondation Y ne touche pas de subvention directe de l'État, assure M. Kaila, mais bénéficie en fait d'autres types d'avantages. Entre autres, l'organisme peut contacter des emprunts pour 40 ans à la banque à des taux préférentiels réservés à l'État. De même, il loue les terrains à la municipalité aussi pour une durée de 40 ans, à un loyer très inférieur au coût du marché. Après toutes ces décennies d'efforts, il ne restait plus que 52 lits dans les refuges temporaires de Helsinki en 2016 par rapport à 2120 en 1985. Dans un essai intitulé « Successful Public Policy in the Nordic Countries » aux presses de l'Université d'Oxford, le modèle « Housing First » finlandais est maintenant considéré comme un succès total au sens politique parce qu'il fait consensus. Il ne suscite plus d'opposition majeure. Stabilisé. Pour l'heure, cependant, la formule finlandaise « ce succès total » ne figure pas dans l'écran radar du gouvernement caquiste. Il faut stabiliser la montée de l'itinérance et faire redescendre la courbe avant de parler d'éradiquer, avait prôné le ministre Lionel Carman l'automne dernier. Une étape à la fois. Si on veut faire de trop grands pas, ça ne fonctionne pas. Le prochain dénombrement des personnes en situation d'itinérance est prévu par le gouvernement pour 2024. Le maire de Helsinki, Juhana Vartiainen, va-t-il jusqu'à conseiller aux autres élus d'emprunter la voie de la Finlande? À titre de maire, il faut faire attention pour ne pas trop donner de recommandations aux autres maires, parce que chaque ville est différente. Il se peut aussi que ça ne fonctionne pas dans d'autres villes. C'était Itinérance zéro, une solution finlandaise pour le Québec, un texte de Patrice Bergeron de la Presse canadienne, paru le 31 décembre 2023 dans l'actualité.
10 gestes gratuits à poser pour économiser de l'électricité. Un texte de Sophie Stival, paru dans le magazine Bel Âge. 1. Utiliser la bouilloire électrique pour une économie d'énergie de 40% à 70% par rapport au rond de cuisinière. 2. Se servir du four grille-pain puisqu'il consomme deux fois moins d'énergie que le four de la cuisinière pour la même durée de cuisson. 3. Privilégier le four à micro-ondes plutôt que le four de la cuisinière car il dépense cinq fois moins d'énergie. 4. Opter pour le cycle de séchage sans chaleur ou à l'air de son lave-vaisselle peut en diminuer la consommation d'énergie de 15% à 20%. 5. Choisir le cycle de refroidissement pour le séchage du linge. Plus économique, il prévient également le froissement car il termine le séchage à l'air frais. 6. Limiter l'auto-nettoyage du four puisque c'est très énergivore. 7. Ne pas laisser le réfrigérateur vide afin d'empêcher l'usure prématurée du compresseur. 8. Réduire la température des pièces inoccupées et garder la porte fermée. 9. Ne pas laisser couler le robinet pendant le brossage des dents, le rasage ou le lavage du visage ou des mains. 10. Éviter l'achat d'un deuxième congélateur, puisqu'il est aussi énergivore que le frigo. En cas de nécessité, on choisit un modèle horizontal qui consomme moins que les modèles verticaux. Pour les besoins de congélation, il faut compter environ un demi-pied cube par occupant. C'était 10 gestes gratuits à poser pour économiser de l'électricité. Un texte de Sophie Stival, paru dans le magazine Bel Âge.